Certains passages de l'Évangile peuvent nous désarçonner, car ils font apparaître un paradoxe, une rupture logique dans le discours, voire les attitudes de Jésus. Pourtant, ces incongruités n'ont rien de fortuit. Bien au contraire, elles révèlent souvent un aspect de la nouveauté de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cela me semble le cas aujourd'hui. Imaginons la scène ensemble. Des Grecs veulent voir Jésus. Il s'agit probablement de sympathisants du judaïsme issus des nations païennes. Ils croient au Dieu d'Israël, mais n'ont pas adopté tous les marqueurs de l'identité juive, comme la circoncision par exemple. Ce sont donc des craignants Dieu. Montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque, comme doit le faire tout juif, voilà qu'ils entendent parler d'un homme qui en a ramené un autre à la vie. Lazare est sorti de son tombeau, et la foule ne parle plus que de cela dans toute la ville. Celui par qui le miracle est arrivé serait le Fils de Dieu, le Messie. Le désir de ces quelques Grecs est-il donc motivé par une simple curiosité devant un phénomène peu commun, ou bien s'agit-il déjà des prémices de la foi? Nous le savons dans l'Évangile selon saint Jean, voir, c'est croire. Il y a donc fort à parier que les Grecs en question se posent des questions fondamentales et qu'ils souhaitent pouvoir y répondre en rencontrant d'abord Jésus. Ils présentent leur requête à Philippe, qui s'adresse lui-même à André. Les prénoms, aux consonances grecques de ses disciples, l'ami des chevaux et l'homme, indiquent d'ailleurs une affinité culturelle avec les demandeurs. Saint Jean nous rapporte en outre que Philippe, comme André, est originaire de Bethsaïde. Surtout, notons qu'André est sans doute à l'origine de l'appel de Philippe par Jésus. Rappelons-nous notamment le premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Jésus, André, Philippe, notre disciple, nous. Nous remontons donc la chaîne de transmission de l'Évangile. Nous, notre disciple, Philippe, André, Jésus. Alors me direz-vous, où se trouve-t-elle la rupture logique? Ne trouvez-vous pas étrange la réponse apportée par Jésus à la demande des Grecs? À des croyants qui souhaitent le voir, Jésus répond par un développement théologique très dense, assorti d'une parole inouïe du Père. Avouez qu'on peut faire plus simple en matière de réponse à une demande de rendez-vous. Ainsi, Jésus ne donne aucune indication directe à transmettre aux Grecs, mais il nous apprend trois choses essentielles sur la manifestation de l'amour de Dieu à travers sa personne. Premièrement, Jésus évoque la venue de l'heure de sa glorification, c'est-à-dire du moment où la pleine réalité de Dieu va être dévoilée, où l'amour de Dieu va être pleinement dévoilé. L'éclat de la puissance divine va s'exprimer par la mort assumée du Christ en croix. Voir Jésus en vérité, donc voir Dieu également et son amour, c'est voir le crucifié, est-il répondu aux Grecs. Ainsi, à la rupture logique apparente, se substitue un paradoxe, renforcé par l'intervention du Père. Saint Irénée affirmait « la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », on pourrait dire ici « la gloire de Dieu, c'est l'homme aimant jusqu'à mourir ». Deuxièmement, Jésus indique le sens à donner à sa mort. La parabole du grain qui meurt nous fait comprendre que le mystère pascal, passion, mort, résurrection, est la condition d'une fécondité future, à savoir la réconciliation entre les hommes et Dieu, l'accès rendu possible pour tous à la vie éternelle et la conclusion d'une alliance nouvelle. Mais ce mouvement, mort, fécondité, ne concerne pas seulement le Sauveur, il concerne aussi chaque disciple de Jésus. Pour porter du fruit, et que ce fruit demeure, le croyant doit être prêt à renoncer à tout ce que le monde présente comme une vie réussie. La gloire, la vraie, il l'obtiendra lui aussi en mettant ses pas dans ceux du Christ, en s'engageant au service de ses frères, en donnant sa vie par amour. Chacun de nous, à sa mesure et selon le dessein du Père, est appelé à être un grain de blé. Troisièmement, Jésus apporte des vues nouvelles sur les dernières heures de sa vie. Contrairement à ce que nous montrent les synoptiques ou ce qu'atteste la lettre aux Hébreux, saint Jean n'évoque pas l'agonie de Jésus à Gethsémani avec un grand cri et dans les larmes. Contradiction de l'Écriture ? Non. L'âme de Jésus est bien bouleversée. Mais à l'angoisse succède presque aussitôt l'obéissance, cette vertu, car c'en est une, qui porte à leur perfection la foi, l'espérance et la charité. Jésus accepte librement de livrer sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde, et il nous invite, dans sa réponse aux Grecs, à faire de même. Ainsi, l'heure de la croix devient l'heure où la vie triomphe de la mort, où s'accomplit la loi. Dieu inscrit cette dernière non plus sur des tablettes de pierre, mais sur la tablette de chair du cœur sacré de Jésus. Et de ce cœur transpercé jaillit une source de vie éternelle. Nous aussi, nous voudrions voir Jésus. Il nous reste quelques jours pour préparer notre propre cœur et demander au Seigneur d'y mettre sa loi d'amour. C'est maintenant. C'est maintenant. Il nous suffit juste de croire à l'inouï du mystère pascal et de nous rappeler les mots de Jésus à la sœur de Lazare. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que cette gloire soit manifestée pleinement sur la croix et par le tombeau vide. Amen.